11h sur Radio Campus Tour. Pardon pour ce bruit de départ. C'est le cellophane plus le masque pour être Covid-proof. Navré, chers auditeurs, pour cette distraction sonore. Alors, cette année, pour nos étudiants, vous savez sûrement que Franck Ternier, réalisateur, graphiste et artiste, était en résidence à l'université pour cette année 2019-2020. Voilà, il était accueilli au sein des laboratoires de recherche du Gréement et de l'Institut Denis Poisson pour y explorer les domaines des sciences physiques qui y sont étudiés. Il s'est interrogé sur les modes opératoires de recherche et un sujet qu'il a animé aussi dans ce travail, c'est la physique quantique. Voilà, physique quantique, objet de nombreux fantasmes pour nos congénères. Alors, pour parler plus en détail de cette résidence d'artiste au sein de l'Université de Tours, j'ai le plaisir de recevoir dans nos studios Cécile Thomas. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous travaillez au service culturel de l'Université de Tours.
Tout à fait, et je m'occupe des artistes en résidence.
Entre autres choses. Voilà, et j'ai le plaisir également de recevoir Franck Ternier. Bonjour.
Bonjour.
Alors, merci à vous deux d'être venus jusqu'à nous dans ces conditions particulières. Peut-être pour commencer, Cécile Thomas, est-ce que vous voulez nous expliquer en quoi ça consiste une résidence d'artiste, entre autres à l'Université de Tours? Voilà, parce qu'on sait que l'Université de Tours, c'est la première institution de recherche publique en région Centre-Val-de-Loire et qu'il existe une convention cadre, Université lieu de culture, signée en juin 2013. Et donc, je pense que vous travaillez avec cette convention.
Tout à fait, mais en fait, les résidences d'artistes à l'Université de Tours remontent à bien plus longtemps. On a accueilli notre première artiste en résidence, je crois, en 2001. C'était Alexis Armengol avant la création du théâtre universitaire, donc ça fait vraiment un petit moment. Donc, chez nous, les artistes, effectivement, sont immergés dans un cadre universitaire pour une création commune. Avec les étudiants et aussi, et ou on va dire personnel, une création en nom propre. Depuis quelques années, chaque artiste est associé à un laboratoire de recherche. Donc techniquement, en fait, ce qui se passe, c'est que tous les ans, on fait un appel à candidature en premier dans les laboratoires de recherche. Les laboratoires donc candidatent et ensuite, on y associe un artiste si jamais ils n'ont pas d'artiste dans leur projet. Voilà.
Alors d'où ça vient en fait, un laboratoire a envie qu'un artiste comme Franck Ternier vienne dans son laboratoire? Comment ça se passe en fait? Qu'est-ce qui leur donne envie de recevoir un artiste?
Eh bien, je pense que ce qui leur donne, enfin, il faudrait les interviewer, parce que je pense qu'à chaque fois, c'est des préoccupations qui sont différentes. Mais je pense que ce qui va chatouiller un petit peu les chercheurs, c'est de se dire qu'une personne va avoir un regard totalement différent sur la discipline qu'ils étudient. Je pense que Franck a vu la physique quantique ou le magnétisme, parce que je crois que tu as travaillé aussi beaucoup là-dessus, ouais. De manière totalement différente que Loïc Villain et Gisèle Gruner, qui étaient les chercheurs associés à la résidence de Franck. Donc voilà, je pense que vraiment ce qui intéresse les chercheurs, c'est cette vision totalement différente par rapport à la discipline que peut apporter l'artiste.
Oui, il y a l'idée de, finalement, c'est assez simple, hein, c'est l'idée de rencontre, aller dans des labos de physique. Pour moi, c'était finalement quelque chose que j'avais jamais fait. Donc, il y avait la rencontre de la discipline et également, finalement, des chercheurs dans leur discipline. Et sachant que là, les deux labos sont assez différents, il y a un labo Denis Poisson où c'est des théoriciens. Donc ça me fascinait un peu de suivre, de voir et de questionner finalement, c'est quoi un théoricien? C'est donc un mec avec un carnet et qui a des idées. Et puis, voilà, ça c'est l'image qu'on peut s'en faire. Et puis après, il y a la rencontre, la rencontre de leur pratique. Et là, c'était la pratique d'universitaires et de chercheurs. Donc, il y avait ce côté-là. Et puis l'autre labo, c'était plus de la recherche sur des thèmes assez précis, avec finalement des expériences. Donc vraiment un autre volet finalement de la physique. Et la rencontre, oui, elle se fait... la volonté aussi de rencontrer finalement un artiste, c'est d'avoir finalement un autre point de vue sur le travail. Et puis, par exemple, moi, me concernant, c'est finalement, je leur ai tout de suite dit, je n'aurais pas du tout un point de vue scientifique, ça ne m'intéresse pas. Je vais essayer de ramener finalement ce que vous me racontez à moi. Et ben voilà, en fait, cette démarche-là d'écriture, c'est quelque chose qui les a questionnés. Tiens, comment il va faire pour ramener finalement les discussions qu'on a sur tel phénomène à lui?
Voilà, mais comment vous avez découvert le Gréement et l'Institut Denis Poisson? J'imagine qu'on ne se réveille pas un matin en se disant « Tiens, je vais aller au Gréement. Pourquoi ces labos-là, en fait ?»
Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, je connaissais quelques chercheurs. Et lors de soirées mondaines, je questionnais. Et en fait, à chaque fois que je posais la question, notamment aux théoriciens, « Mais tu travailles sur quoi ?» C'était très, très flou. Et il y avait comme une réticence à en parler. Alors pourquoi? Maintenant, je pense savoir, c'est que le vocabulaire est très particulier, que chaque domaine, on voit bien que il y a des domaines... on sent que finalement, deux physiciens peuvent avoir du mal à discuter ensemble sur des domaines très, très précis qui sont leur champ d'étude parce qu'ils peuvent ne pas se comprendre. En tout cas, il y a des domaines très, très précis. Et du coup, en questionnant ces personnes-là, je voyais qu'il y avait une entrée un peu difficile. Et du coup, je les ai approchés, je leur ai dit je viendrai bien à l'université voir ce que vous faites. Mais ça, c'était avant l'histoire de la résidence. Et puis, on en a discuté. Et puis, il y a eu l'idée de tiens, il y a une résidence. Là, je vais vraiment venir. On va proposer à l'université que je vienne dans ces labos-là pour vous observer, questionner, discuter. Et voilà comment ça s'est fait, tout simplement.
Mais alors,
j'avais une entrée, on va dire, déjà.
Mais dans ce que vous dites, Franck Ternier, on a l'impression aussi qu'il y a une démarche d'anthropologue. On a l'impression que vous allez muni de votre carnet un peu dans un continent inconnu. Et voilà,
ouais.
Est-ce que ça...
Je travaille souvent comme ça, en fait. Jusqu'à présent, les rencontres ont nourri mes travaux. Et j'avoue qu'il y a plein de domaines qui m'intéressent. Donc, quand il y a une porte qui s'entrouvre, de temps en temps, je mets le pied, puis voyons voir, rencontrons-nous, et puis ça m'intéresse ou pas. Mais souvent, ça me nourrit.
Mais comment vous pouviez savoir que ça allait marcher, en fait? Parce que c'est une prise de risque, ça se trouve, ça aurait pu être très compliqué. Là, vous connaissiez des personnes, peut-être l'environnement vous parlait. Mais qu'est-ce qui fait que ça marche, en fait, que vous arrivez à entrer dans un processus créatif, parce que ça aurait pu ne pas marcher du tout, en fait?
Ça aurait pu. Ça aurait pu ne pas marcher, je ne sais pas si ça a marché. Là, je suis encore en pleine création. J'avoue que ça me porte. Je suis assez content du travail que je suis en train de faire. Après, il n'y a pas de recette. Moi, je pense que, à partir du moment où on se lance dans une aventure, je pense que l'aventure humaine, la rencontre, etc., ça nourrit aussi finalement ce que je fabrique. Et c'est un truc que je répète, mais finalement, je ramène souvent les sujets à ma personne. Là, j'ai questionné, on va dire, le quantique, et on se rend compte que le quantique, effectivement, il y a quelque chose, un fantasme fou. C'est pour ça que j'ai pris ce sujet-là, c'est que je voyais que je ne m'y intéressais pas du tout. Et on entend parler là, il y a des grosses conneries qui se disent, etc. Allons questionner ce champ, justement, qui intéresse tant de personnes, mais finalement, qui est assez indescriptible. Et ce qui m'intéressait aussi à poser comme question, c'est que moi, finalement, je suis une personne de l'image et du son, vu qu'on fabrique des films. Et le quantique, c'est quelque chose qu'on ne peut pas voir. Et du coup, l'une des premières questions que je posais, comment on peut le voir? Donc, c'est une question complètement crétine, mais qui permettait de lancer des discussions, finalement, assez simples et qui, moi, me ramenait à mon domaine, qui est l'image, tiens, comment je peux concevoir, etc.
Après tout, quantique, on peut l'entendre différemment aussi. Ça peut être, puisque vous parliez de son, ça peut être le chant aussi, un quantique. Là, on entre.
Ah oui, là, on est. Alors, c'est complètement différent. On est resté vraiment sur le chant, on va dire, assez physique. Moi, j'ai utilisé quelques théories. Et puis, il y a des mots qui ont résonné et qui m'ont permis, en fait, d'écrire le projet qui s'appelle L'ombre quantique. Et je me suis vraiment appuyé sur voilà, deux, trois phrases qui ont vraiment résonné chez moi, et puis des mots. L'indétermination, je trouve ça super beau. Et l'indétermination, oh ok, c'est un truc qui concerne la physique quantique, mais qu'est-ce que c'est dans notre vie? Et voilà comment je tisse des ponts un peu bah voilà, à ma façon, de façon à ramener finalement à ma perception, à ma façon de voir les choses, quoi.
Mais alors, comment ça se passe une résidence? Donc, c'était 2019-2020. Et alors, c'est-à-dire qu'au début, vous êtes arrivé dans les labos comme si c'était la nuit, et petit à petit, on avance et la lumière se fait. Comment on avance?
En fait, j'ai pris des rendez-vous. Ah, tiens, j'aimerais bien te rencontrer. On prend une heure, on prend deux heures, on prend une matinée. Et en fait, j'ai rencontré plusieurs physiciens en posant un peu toujours les mêmes questions et en ayant à chaque fois des réponses complètement différentes. C'est ça qui m'a aussi nourri finalement, c'est que j'ai pu voir que, ah oui, on peut voir ça comme ça. Et puis après, il y a les exposés qui sont aussi complètement différents. C'est qu'il y en a, je m'accrochais, j'ai eu mal à la tête. Parce que quand un physicien commence à expliquer en mettant des équations, là j'étais complètement perdu. Et en même temps, c'était fascinant parce qu'il y avait le cheminement de la pensée qui était hyper intéressante à essayer de suivre. Et donc voilà, au départ c'était ça. Et puis, après il y a eu le travail avec les étudiants qui amenaient à se positionner rapidement sur un projet, notamment autour du doute. Au départ j'étais parti un peu sur le doute, etc. Ben voilà, après on s'immerge. Les rencontres étaient faciles parce que déjà je connaissais quelques personnes. Et puis, j'ai rencontré les personnes au fur et à mesure. Et puis, on a fait un voyage hyper intéressant juste avant que tout s'arrête. on a fait la visite de 5 laboratoires à Grenoble. On a fait le CERN. Et donc là, j'ai rencontré aussi pas mal de physiciens dans des domaines complètement différents. Le CERN, donc c'était le... J'allais dire synchrotron, mais c'est pas un synchrotron, le cyclotron. On a été dans un synchrotron, on a vu des expériences de haute énergie. Enfin, j'ai oublié, hein, parce qu'ils m'en ont mis plein la tête. Hein. Ben, bref, on a visité 5 lieux un peu emblématiques de recherche. Ça aussi, c'était assez intéressant de voir que... de voir ces labos, différents fonctionnements, des labos un peu à l'ancienne, avec des expériences, des mecs qui fabriquent des robots, etc. Des labos qui ressemblent à... certains, le CERN, on est dans James Bond, hein, on descend 100 mètres sous terre, le capteur, il fait 30 mètres de large. Bref, c'est assez impressionnant. Donc, il y a eu aussi ce volet-là. Loïc m'a aussi emmené à l'Institut des hautes études scientifiques, où là j'ai eu la chance de rencontrer un ponte de notamment de la physique quantique,
Thibaut d'Amour,
voilà. Donc là aussi très chouette rencontre. Voilà, j'ai rencontré des personnalités et je me suis nourri pour nourrir finalement le scénario. Mon film.
En fait, c'est même, ce que raconte Franck là, c'est le principe de la résidence comme nous on l'entend à l'université, c'est-à-dire que c'est un temps long. Une résidence chez nous, ça dure 8 mois. Bon, Franck, il va faire le double à cause de la situation sanitaire, mais voilà. Donc, c'est 8 mois, donc il y a vraiment un temps qui est dédié à l'immersion. Il arrive en septembre, s'il n'y a pas de travail. Présenté avant décembre, janvier, ou un début d'atelier ou quoi, et s'il est juste dans les labos, ça se passe comme ça. Et vraiment, je pense que l'intérêt de ce qu'on propose, il est là, c'est d'avoir du temps. Et c'est rare aujourd'hui, cette matière première. Quoi. Je pense que la période d'immersion, la rencontre avec les chercheurs, etc., c'est quelque chose qui existe chaque année, et qui est indispensable à ce qu'on demande aux artistes de faire, notre cahier des charges, en fait.
Et alors, toute cette collection, comment dire, de choses vues, entendues et ressenties, sûrement,
Ouais.
comment vous les gardez, Franck Ternier? Est-ce que vous les dessinez? Est-ce que vous les écrivez? Est-ce que vous les enregistrez?
Alors, non, je n'enregistre rien. Je préfère. Alors, ça, c'est ma façon de faire, mais je n'enregistre rien. J'essaie de. Alors, par contre, je prends des notes. Mais des notes, c'est souvent des brouillons avec des dessins, des. Voilà, quand j'écoute, souvent, je suis obligé de décrire, pas d'écrire ou dessiner. Et en fait, c'est ces notes-là, après, que je relis. Donc, j'ai une collection d'une dizaine, vingtaine de pages où j'ai pris des notes, j'ai fait des dessins. Et ça, en fait, c'est mes souvenirs de ces rencontres-là. Voilà comment je fais. C'est pas très clean, mais c'est comme ça que c'est comme ça que j'ai besoin de le faire. Et après, ça devient une partie de ma matière. Après, j'ai beaucoup parlé avec Loïc et Gisèle. Loïc m'a donné des livres à lire, etc. Donc, ils m'ont aussi permis d'approfondir, on va dire, certaines thématiques, notamment, voilà, la décohérence, j'avais du mal à comprendre. Tiens, lis ça. L'indétermination, tiens, lis ça. Tiens, regarde ce qu'a fait tel chercheur, etc. Du coup, je me suis aussi un peu ouvert à l'histoire un peu de la physique. Et ça, c'est quelque chose qui m'a réellement interpellé parce que je me suis rendu compte que j'y connaissais rien et que c'était passionnant. Et que c'est enfin, quelque chose, là, je me dis, mais il faut absolument qu'au collège et au lycée, on voit un tout petit peu ça. Parce qu'on fait de la physique, on apprend les équations, etc. Mais l'histoire même de la physique, bah, moi, j'ai trouvé ça génial. Et ben voilà, j'en ressors quand même avec quelques convictions où je me dis, il y a des trucs qu'on n'apprend pas, mais qu'on devrait, parce que ça peut donner vraiment envie. Et notamment l'histoire, moi, je m'y intéresse un peu, mais pas plus que ça. Et là, j'avoue qu'il y a eu plein de points d'accroche, plein de belles histoires en physique. Et ben voilà, ça a été aussi un. Ouais, une des matières que j'ai travaillées, qui n'est pas du tout apparente dans le film, mais c'est des choses qui m'ont nourri.
Voilà, et donc Cécile Thomas, vous rappeliez hein, qu'il y a un cadre particulier, qu'on prend du temps pour cette résidence, donc on peut aussi insister sur le fait que c'est un travail. Donc ça veut dire que l'artiste, il vient pas comme ça parce qu'il a envie, il y a vraiment un cadre précis.
Bien, oui, tout à fait, oui. Dans le cahier des charges, pour les chercheurs. Le premier cahier des charges, il y a un cadre. Et ensuite, avec les chercheurs, on construit un second cadre pour l'artiste qui est en résidence. Mais oui, il a des devoirs. Il doit donc s'approprier le laboratoire ou les thèmes de recherche à sa manière. Il doit proposer au moins un atelier aux étudiants de toute discipline. Il peut travailler avec les étudiants de la discipline des laboratoires de recherche. Parfois, ça arrive. Il doit faire des présentations publiques, donc inviter des artistes au sein du labo avec les étudiants, des artistes qui seraient complémentaires à son travail. Donc là, c'est ce qu'on avait prévu pendant la résidence de Franck, mais malheureusement, tout a été annulé. Voilà, il y a vraiment. Puis il faut qu'il y ait aussi une sortie de résidence, la présentation du travail des étudiants, tout ça. Donc là, on devrait proposer la sortie. Enfin, on va proposer un premier visionnage du court-métrage que Franck a réalisé avec les étudiants qui s'appelle.
Ah, tu as. Et je sais même plus.
Qui s'appelle pour mes paupières. J'utilise mes mains pour fermer mes
Pour
ouvrir
ouvrir
mes
mes
paupières. Voilà.
paupières.
Donc j'utilise mes mains pour ouvrir
Pour
mes
ouvrir mes
paupières,
paupières.
qui sera donc proposé pendant une émission en live sur le YouTube de l'université samedi 10 octobre pendant la fête de la science, où Franck sera interviewé vers 16h30, si
C'est
j'ai
ça.
souvenir. Donc, puisque la fête de la science cette année sera totalement dématérialisée. Donc ce sera la première manière de voir ce film produit par les étudiants, qui est vraiment un petit bijou. Enfin, je vous conseille parce que c'est vraiment... Je pense qu'il y a vraiment plus un rapport avec ton travail personnel entre le film produit par les étudiants et le film que tu produis seul. Le lien, enfin, moi je vois que le doute interrogé pendant, enfin, avec le court-métrage des étudiants, c'est aussi un lien du chercheur par rapport à son sujet. Mm-hmm. Et je pense que ton film personnel interroge aussi cette un notion entre le chercheur et sa discipline. Même si ça revient sur toi, comme tu dis, voilà. Et donc, ça sera une première manière de voir ce film. Ensuite, à partir de la semaine d'après, il sera forcément disponible sur nos réseaux, sur le site de l'université, voilà. Mais la sortie officielle, ce sera donc samedi 10. Et ensuite, nous prévoyons une sortie officielle du film de Franck, donc « L'ombre quantique ». Au mois de janvier, le 17 janvier, si j'ai bien souvenir, ou le 23. Le 23. Le 23 janvier, en principe, dans une salle Télém rénovée. Et si Télém n'est pas accessible, on verra où on le fera, mais on va garder la date, le 23 janvier. Donc, ce sera l'occasion de voir à nouveau le film produit par les étudiants sur le grand écran de Télém. Et le film de Franck, dont ce sera la première diffusion, au moins en région centre. Voilà.
Oui, il n'y en aura pas avant. Hein.
Ouais, il n'y en aura pas avant. Bon. Donc,
Il n'est pas fini. Hein. On est en plein dedans.
Alors, justement, Franck Ternier, quelques questions sur ce travail dont vient de parler Cécile Thomas avec les étudiants. Comment ça s'est passé, en fait? Comment on constitue l'équipe d'étudiants? Qu'est-ce qu'on leur raconte? Comment on leur propose des axes de travail? Comment ça marche?
Alors, ça marche. Alors déjà, comment on leur propose? C'est les services culturels qui ont ouvert un CERCIP. Donc, c'est un cours.
Donc, c'est une UE que les étudiants doivent valider, qui est transversale à d'autres disciplines que ce qu'ils étudient en principe et qui leur apporte des compétences différentes. Voilà. Donc, on a ouvert cet atelier en sachant qu'on avait fait un travail préalable d'information auprès des étudiants de physique. Pour qu'il y ait des étudiants de physique inscrits dans l'atelier de Franck, pour faire un lien. Voilà.
Parce que moi, j'étais parti en fait à la base pour faire un lien avec les labos où j'étais accueilli. Donc, on va dire que le thème, une des thématiques, c'était d'essayer de parler physique ou en tout cas d'évoquer la physique dans le cadre de cette création. C'était à peu près la seule contrainte, entre guillemets, que j'ai fixée. Donc après, les étudiants, ils étaient volontaires. La façon dont j'ai procédé, c'est qu'au départ, j'aurais montré ce que c'était que des films d'animation, notamment des cours en animation, parce que finalement, il y en avait beaucoup qui ne connaissaient pas, qui en ont vu, mais là, j'ai fait une diffusion d'œuvres qui, pour moi, étaient relativement importantes ou charismatiques, qui pouvaient les intéresser. Et puis ensuite, on a lancé de l'écriture. Les étudiants avaient vu mes films avant à Télém, et donc ils s'étaient projetés un peu dans mon univers au départ. Donc, ils voulaient faire du mix média, etc. Je les ai vite réfrénés en disant, voilà, l'animation, en fait, c'est un temps long. On est vraiment, c'est pas comme la création d'un film en prise de vue réelle, où finalement, en 3 jours, on peut vite filmer 5, 6, 10 minutes, et après, c'est du temps de montage. Là, l'animation, c'est que chaque image, ça prend un temps. C'est que 12 images pour faire une seconde, ah voilà, 12, 14, bon après, ça dépend de ce qu'on fait. Donc, il y a eu aussi, finalement, essayer d'établir avec eux, voilà, la réalité de ce que c'est que faire un film d'animation, en leur décrivant, finalement, les étapes. Il y a la scénarisation, il y a la recherche graphique, il y a la recherche de comment on va animer et comment on va produire, finalement, le film. Donc, la deuxième chose que j'ai imposée rapidement, parce que j'ai vu qu'ils voulaient faire des choses beaucoup trop compliquées avec le peu de temps qu'on avait... je leur ai proposé plusieurs directions, on va dire, graphiques. Et ensuite, on est parti sur sur les envies qu'ils avaient. Alors après, à 20 cerveaux pour écrire un scénario, c'est jamais facile. Donc moi, j'ai joué un peu à finalement prendre les idées, resserrer de façon à ce qu'on aille rapidement à une écriture qui convienne, on va dire, à tout le monde, et qu'ensuite on joue le jeu finalement de la réalisation, de commencer à dessiner, commencer à penser une scène, à mettre en scène ce film, et qui finalement était je pense, qui était pour eux le plus intéressant, parce que d'un seul coup, ils quittaient le crayon papier pour concevoir et ils se mettaient à faire quelque chose qu'ils avaient pour la plupart jamais fait.
C'est quelque chose que vous aviez déjà fait? C'est une expérience que vous
Ouais,
aviez déjà,
ouais, ouais.
des
Ouais, moi
ateliers?
j'aime bien. Il y a donc dans mon activité, il y a la création et l'éducation à l'image. Donc je continue de faire des ateliers en collège, au lycée, université, dans
Voilà, donc.
des écoles de cinéma, etc.
Et alors ça, ce que vous expliquiez tout à l'heure, Franck Ternier, que vous êtes la matière en fait de votre travail, que vous partez de vous-même. Alors comment on arrive à décoller des étudiants ou des élèves de ça? Parce que vous dites leur première idée c'était de faire un peu comme vous, en fait, de s'inspirer du modèle. Donc comment vous les invitez soit à être eux-mêmes la matière de leurs images, comment vous faites? Et comment vous faites pour ne pas les ramener leurs idées à votre expérience? Puisque vous dites que vous avez trié quand même un peu après, comment vous arrivez à.
Alors là, la difficulté, c'est qu'on est 20. Donc c'est assez difficile de ramener le projet à chaque personne. Parce qu'à 20, c'est juste pas envisageable. Donc c'est un jeu de compromis. Et effectivement, après, quand on voit le film, on se dit, ah bah, et je l'ai fait en conscience. C'est-à-dire que l'atelier, il fallait que ça aille vite. Et du coup, j'ai rapidement mis aussi mes interrogations les interrogations que j'avais pendant la résidence. Et finalement, c'était les premières interrogations où je voulais évoquer peut-être le doute, etc. Donc j'en ai discuté. Ça les a nourris. On s'est, voilà, j'ai nourri entre guillemets un peu leur travail en leur parlant entre guillemets de ce que j'étais en train de faire avec l'ombre quantique. Même si l'ombre quantique, ça a dévié au fur et à mesure, et heureusement. Pas
Ok.
heureusement. Bah voilà, c'est comme ça que je fonctionne souvent.
Okay. Est-ce qu'il y a une filiation peut-être entre les deux films?
Alors, en fait, pas du tout. Mais après, je pense qu'on peut retrouver, il y a des éléments en commun, ça c'est sûr. Oui, il y a des éléments en commun. Après, esthétiquement, les films sont complètement. Il n'y a rien de comparable. Après, oui, il peut y avoir ma patte qui est j'aime pas les choses bien nettes, donc je travaille, je découpe. Il y a des choses, les trames, je leur ai fait travailler aussi avec ce que moi j'utilise comme vocabulaire, donc les trames, les matières, le découpage, etc. De façon à ce que je sois aussi à l'aise pour les aider dans cette création. Donc il y a finalement la création avec les étudiants, c'est une espèce d'échange, de conversation pour arriver à réaliser ce film.
Bien, je vous propose de faire une pause musicale pour qu'on puisse reprendre notre
Très
souffle.
bien.
Donc vous écoutez La Méridienne sur Radio Campus Tour et vous allez même écouter Pascal Comelade. On va écouter Vertical. Voilà, c'est sur l'album Parallelo de 1980. Et oui, je pense, chers auditeurs, que vous n'étiez pas tous nés, mais c'est pas grave. Musicale comme la de Verticale sur Radio Campus Tour. Vous écoutez toujours La Méridienne. Avec moi en studio, Cécile Thomas et Franck Ternier. Nous parlons de la résidence d'artiste de Franck Ternier à l'université de Tours. Pardon, excusez-moi pour ce mélange de mots. Alors, à quoi ça ressemble un travail de Franck Ternier? Si vous posez la question, chers auditeurs, eh bien... Je vais vous proposer, ainsi qu'à vous, Franck Ternier, de faire écouter les sons de certaines de vos vidéos qu'on trouve sur le site Ideal Crash. Alors, avant toute écoute, est-ce que vous voulez nous expliquer c'est quoi Ideal Crash ?
C'est un collectif. C'est un collectif que j'ai monté il y a, je sais plus, quelques années. Alors après, c'est né de l'association L'Astronef. Et il y avait l'envie de travailler à plusieurs. Bah, de toute façon, souvent, on voit les mêmes noms sur mes créations. Je travaille avec Frédéric Duzan, avec Laurent Moulin, avec Camille Trophème, nouvellement Vanessa Ayome, Grégoire Darras. Voilà, c'est des personnes où on travaille régulièrement ensemble. Et finalement, j'ai créé ce nom il y a quelques années avec Zed et Laurent. Et voilà, on va dire que c'est un... c'est comme une marque de fabrique, on va dire. Souvent, je suis à l'origine des projets. C'est des projets qu'on veut un peu sans trop de concessions. C'est notre espace de récréation, Ideal Crash.
Alors, on va écouter un premier extrait donc à retrouver sur le site Ideal Crash. Voilà. Alors voilà, je ne dis rien et vous nous en parlerez, Franck Ternier, après, pour nous dire de quoi il s'agit.
Un homme souriant arrive brusquement dans l'encadrement de la porte de son bureau. L'homme souriant est très dynamique. Tu viens, j'ai appris que tu m'étais. Tu viens, c'est vraiment chouette. Il repart tout aussi sec. Camille s'arrache de son fauteuil et attrape au hasard une des pages. Elle commence à être très énergique. Son corps répond au son de l'art de Joko. Elle sort de son bureau. Entre dans un open space. Elle marche, puis danse en chantant. Elle se dirige vers une pédale, une pédale de boucle là qui boucle les sons. Elle appuie sur la pédale. Camille traverse ainsi l'open space en réalisant de grandes transversales. C'est la chorégraphie de la boucle. Cette vidéo sur le site Ideal Crash, on peut lire improvisation, thème des boucles, pas d'inquiétude, le chant faux s'est fait exprès. Alors,
c'était pour Camille, ça, pour que. Bon, c'est une chanteuse, et là, elle déraille souvent.
Alors, c'est quoi en fait? C'est quoi cette vidéo qu'on peut, dont on a
Alors,
entendu
c'est...
le.
Vidéo, en fait, j'ai écrit un projet qui s'appelait Appelez-moi Yumi, qui était un court-métrage, une comédie musicale que je voulais réaliser. Donc, j'ai été pris dans une résidence, les résidences SoFilm Canal+, pour développer le projet. Et donc là, c'est la lecture c'était un morceau, une lecture qu'on a fait un peu en musique pour proposer le projet à notre auditoire. Et du coup, oui, c'était une improvisation. On avait une salle, un piano, un micro, des boucles. Et donc Camille a fait ça sur le texte de la chanson. En fait, le projet, c'était autour d'une chanson, L'art de Junko. Et c'est concrètement, c'est une personne qui parle pas japonais, mais qui va essayer de le parler en phonétique. Voilà, et qui...
Et alors, comment ça marche sur un projet comme ça? Donc là, il y a une artiste comme Camille Trofem qui propose ce travail-là, enfin, de l'improvisation. Et vous, comment ça marche? Vous dessinez avec, pendant, après? Comment vous liez le son et l'image sur une proposition comme celle-là?
Alors, du coup, là, en fait, c'est un projet que j'ai écrit et on l'a partagé. Elle a fait des lectures de scénarios. On a même un peu travaillé ensemble sur le scénario. Et là... Donc ce moment précis où on a filmé cette improvisation, on était à Belfort en résidence pendant une semaine pour continuer à peaufiner l'écriture et peaufiner la préparation, la présentation plutôt. Et du coup, on travaillait ensemble, on a vu ce qu'on pouvait faire avec la boucle. Comme là, on a pris finalement dans le scénario, il y a effet des transversales. En fait, on est un peu dans sa tête et elle boucle en fait la chanson pour essayer de l'apprendre, de sentir les mots, etc. Du coup, pour la présentation, on s'est dit on va pas être hyper imaginatif, on va prendre une boucle et on va essayer de le jouer comme ça et avec la fragilité de elle sait chanter, mais c'est un peu casse-gueule le japonais, etc. Et donc on voit que sur la vidéo aussi, Camille met pas mal d'énergie, et c'est presque l'énergie qu'on voulait pour ce film, en tout cas pour cette scène-là. Voilà, donc on a joué finalement avec ce support qui était... C'est une présentation, mais on essaie quand même de jouer le film avec l'énergie qu'on souhaitait.
Et ça a donné quoi alors, au bout du compte
On n'a pas été retenu.
Oh.
Parce qu'on m'a dit « trop arty ». Je l'ai en travers la gorge.
Ça veut dire quoi, « trop arty » ?
Trop artistique. Concrètement, oui, le projet était un peu à côté des autres parce que moins narratif, très esthétique et puis aussi porté par moi, pas forcément très connu, Camille, pas très forcément connu. On n'a pas joué non plus la carte de... Bon, on n'a pas joué des cartes hyper sexy. Je pense que c'est aussi... voilà, c'est aussi la loi dans ce genre de, entre guillemets, concours. Mais voilà, moi, je tiens... c'est un projet, il n'est pas enterré, en fait.
Voilà.
Voilà, Canal nous a pas retenus. C'est dommage. Que le film va être bien.
Alors, je vous propose, chers auditeurs, d'écouter un nouvel extrait, toujours sur le même site Ideal Crash. Voilà, c'est une façon de découvrir votre travail, Franck Ternier, de faire écouter le son de vos images, puisque vous expliquiez que vous êtes un homme d'images en mouvement, mais aussi travaillez également le son. Donc je vous propose d'écouter autre chose, je n'en dis rien, et vous en parlerez après.
Et toi, l'homme qui marche, écoute l'homme qui parle. toi qui déambules. Enlève les écouteurs de tes oreilles. Écoute la voix de celui qui s'adresse à tes sens. Ô toi, mon ami, décachette la cire de tes tympans. Ma voix contre ton oreille. Flesh to flesh. Laisse-moi, oh oui, laisse-moi, my friend. Let me speak to you. Regarde cette rue. Vois. Imagine le nombre de passants avant toi.
Voilà, c'était un nouvel extrait. Alors, Franck Ternier, de quoi il s'agit ?
Alors ça, c'est Riot, donc l'avant-dernier court-métrage que j'ai réalisé, qui est un film d'animation qui utilise aussi la prise de vue réelle. Alors, je parle de quoi ? Du film ou du son ? Alors, le son, là, c'est Frédéric Duzan qui fait la voix et qui a fait tout le son. Donc, la musique, le sound design et, du coup, y compris la voix et même... Ouais, voilà, il a tout fait. Toute la partie sonore, c'est lui. Et donc, là, on travaille réellement ensemble. C'est, oui, effectivement, le son, c'est quelque chose où j'accorde énormément d'importance. C'est quelque chose qui rentre quasiment tout de suite en production dès le début des images. Après, à chaque projet, c'est un peu différent. Mais concrètement, dès que je fais des images, je vais chercher des sons. Et j'essaie de trouver un langage entre ces sons et ces images. Et parfois, c'est pour aiguiller ou pour pouvoir parler avec Frédéric ou Camille. De façon à... Alors, c'est donner des exemples, entre guillemets, mais c'est surtout essayer de trouver un vocabulaire commun. Et puis, pour moi, en tout cas, ça m'aide à définir, en fait, ce que j'aime dans ce son-là que je vais leur présenter. Ça va être le souffle, ça va être la rythmique, ça va être la petite ritournelle, etc. Alors, voilà, j'essaie d'avoir le vocabulaire que je peux pour leur expliquer. Et voilà, et on commence des échanges comme ça, mais quasiment dès le début de création, de façon à ce que finalement que je partage la création et que je leur lance déjà des pistes de réflexion.
Mais en plus, je suppose que là, dans cet exemple Riot, on entend il y a des strates sonores, en fait. On voit qu'il y a plusieurs éléments, ouais, qui sont superposés, qui se lient les uns les autres. Il y a des sons du réel, peut-être des sons récupérés sur des banques sonores,
ouais,
je ne sais pas.
Oui, tout à fait, l'hélicoptère, voilà, récupéré. Le petit gémissement, les pleurs au tout début, en fait, c'est Camille. On l'a fait venir. Eh bien, tu nous fais un truc sur la mer, une petite couche un peu de l'intimité, etc. Ben voilà, et c'est au fur et à mesure, on fabrique comme ça, les couches, les strates sonores.
Mais il y a des rimes plastiques aussi avec le visuel, parce qu'en fait, c'est, ouais, ce son du réel. On voit, là, vous disiez tout à l'heure que c'est des images captées dans le réel aussi, donc en fait, ça fait écho.
Ouais, tout à fait. Et une des parties, par exemple, il y a eu pas mal de débats sur, notamment sur une prise de son sur ce film-là. C'est toute la fin, il y a une espèce de... Le narrateur s'emballe, commence, il y a un peu de colère, il chante presque. En tout cas, il y a quelque chose de déclamé. Et moi, l'idée au départ, c'était vraiment de... On ne peut pas le faire en studio, ce truc-là. Je ne veux pas le faire en studio. Il faut qu'on le fasse dehors, dans la rue. Je prends un micro et tu cours. Fred, tu cours. Tu cours et tu déclames. Et au départ, il était, mais non, si on veut un son tip-top, mais en fait, on s'en fout du son tip-top, comme des images, finalement. Moi, des fois, je les gratte, je les abîme, etc. Là, c'est pas ce que je veux, en fait. Là, je veux qu'on sente que t'es sur scène. Et on peut pas inventer ce moment-là. Donc, on est parti comme deux idiots. Pas moi, peut-être pas lui. Hein. Et une perche, et on courait, et il déclamait le texte. Et on a trouvé, pour moi, on a trouvé quelque chose que j'arrivais pas retrouver sur un micro en studio, et on essaie de vivre le truc, mais il y avait quelque chose qui était de l'ordre du jeu. Et là, l'aspect physique, la contrainte physique de il faut faire attention, il y a les trottoirs, il y a les bus, et on court, et je dois quand même jouer le truc. Voilà, ça, je pense que pour la fin, ça a apporté quelque chose de plus vivant, en tout cas, moi qui me parle le plus, peut-être qu'on le sent pas, mais pour moi, c'était important qu'on le fasse comme ça. Mais voilà, ça a été discussion, entre guillemets, avec Fred. Et au final, en écoutant les deux, bah oui, c'est comme ça qu'il faut qu'on fasse. Lui aussi, il y paraît être convaincu.
C'est juste de dire que ces travaux là qu'on peut voir sur le site Idealcrash, est-ce que c'est vrai de dire c'est du travail artisanal, mais au sens noble du terme?
Ouais, tout à fait. C'est l'animation. On peut décider de travailler avec des équipes. Alors, c'est un processus classique et qui donne des super résultats. Moi, en fait, j'ai un peu j'aime être dans l'indécision et dans la recherche. Alors, indécision, c'est pas tout à fait vrai, c'est pas le bon terme, mais j'aime bien continuer à chercher. Donc, pour continuer à chercher, il faut que la matière soit malléable. Et pour ça, si on a 10 personnes à gérer, pour moi, en tout cas, ça, je pense que je sais pas faire. Dans ce que moi, je veux faire, dans la façon dont je veux travailler la matière. Et puis je préfère les contacts directs avec les personnes, expliquer exactement et partager un peu en famille à ce côté-là. Donc peut-être, oui, le fait de « en famille », ça fait peut-être un peu plus artisanal et moins industriel. Mais même si finalement, quand on a une équipe de 10, c'est pas industriel. C'est le processus d'animation, c'est hyper long, donc on a souvent besoin de personnes. Notamment quand on travaille à la ligne claire, etc. Là, il faut des personnes qui fassent les intervalles, etc. Moi, je ne travaille pas comme ça. Donc, je peux me permettre de travailler avec une toute petite équipe. Et puis, on a aussi nos process, la façon dont on travaille. C'est quelque chose c'est au fur et à mesure aussi qu'on voit les réflexes, la façon de faire. On réinvente une manière pour aller plus vite. Ou pour arriver à tel résultat. Donc c'est un truc qu'on partage à un petit groupe.
Alors je vous propose d'écouter un dernier extrait, toujours sur le même site. Voilà, quelque chose, je pense, d'assez différent. Donc vous allez pouvoir nous expliquer ensuite, Franck Ternier, de quoi il s'agit.
Mes petits chasseurs-cueilleurs, bonjour! Voici venu le moment de notre grand tirage au sort de la thématique du jour. Merci d'ailleurs d'avoir été des milliers à nous envoyer toutes ces cartes à la plaine Saint-Denis depuis les années 90. Sophie, vous allez être notre main innocente si l'on fait abstraction de vos monstrueuses déviances.
Alors, il s'agit de Nicolas Tirepouille de Saint-Même-le-Tenue en Loire-Atlantique, qui nous propose le thème suivant, la montre d'Alain Prost.
Enfin, pas du tout, Sophie. Il s'agit de Judicaël Servantan de Saint-Léonard de Noblat en Haute-Vienne, qui nous propose la fonte du permafrost.
Oh bah oui, autant pour moi. Générique !
Les chroniques écologiques du professeur Feuillage.
Le permafrost. En français, on parle de pergélisol. Mais comme ça sonne produit surgelé et que ça m'énerve, on va dire permafrost. Le permafrost, donc, couvre un cinquième de la surface terrestre. 90% du Groenland, 80% de l'Alaska.
Alors, Franck Ternier, c'est quoi ?
Alors, c'est les chroniques du professeur Feuillage. Donc, j'ai eu la chance et l'opportunité de réaliser, donc avec les auteurs, professeur Feuillage et puis son assistante, la saison 3. Donc c'est une production Tourangelle, 6 pieds sur terre production, qui a accueilli ce projet-là. Ils m'ont proposé de réaliser ce que j'ai fait. Voilà. Donc là, projet complètement différent, parce que pour le coup, j'écris pas. Il y a déjà... ils ont fait 2 saisons avec une autre production. Donc il y a un type de jeu, il y a finalement déjà un univers qui est posé. Et là, l'exercice, c'était d'en faire autre chose, mais tout en gardant le vocabulaire qu'ils avaient mis en place. Et d'ailleurs, Mathieu Desmury y tenait énormément. C'est « on ne vient pas tout changer ». Donc là, l'idée de cette réalisation, c'était de tendre à faire un peu moins « youtubeur », entre guillemets. C'est que sur les 2 premières saisons, ils s'adressent beaucoup, il y a très peu de plans larges. Et là, En gros, là, ce que j'ai essayé, en tout cas, de faire, c'est d'être plus dans un décor, d'élargir un tout petit peu, d'être, entre guillemets, un peu plus sur des scènes posées et de faire en sorte qu'ils continuent à déconner, mais qu'on ait bien le sujet. Donc, c'était... C'est un exercice assez difficile, mais c'était vraiment une expérience très très chouette.
Et alors à l'œil, comment est-ce qu'on peut reconnaître que c'est du travail de Franck Ternier, cette réalisation ? À quoi ça se voit, à votre avis ? Même s'il y avait un cahier des charges, à quoi on peut dire « Ah ah, c'est le travail de Franck Ternier ?»
Et alors là, c'est le travail de toute une équipe.
Ouais.
Parce que pour le coup, là, j'ai pas travaillé... j'ai travaillé avec plein de personnes que je connaissais, mais c'était pas Ideal Crash. Donc je dirais que peut-être qu'on voit ma patte, hein, j'en sais rien du tout. Moi j'ai pas l'impression de la sentir, mais parce qu'on a travaillé réellement là c'était vraiment une équipe de cinéma. On était je sais pas combien, mais 15 sur le projet, des concepteurs de décors qui ont fait un travail de fou. Du costume, du chef opérateur qui a fait la lumière, on a un peu discuté, etc. Enfin, bref, là, il y avait... Ouais, c'est plus vraiment un travail très commun. Enfin, mes créations dans le sein d'Ideal Crash, ça l'est aussi, mais finalement, je suis un peu au cœur du projet, c'est moi qui impulse, etc. Là, c'était complètement différent parce que je me mettais au service d'eux. Donc
vous pouvez être imperceptible.
Ouais, j'espère. Même invisible. J'ai fait ça sur scène. J'ai travaillé avec Alexis Armengol qui a eu l'honneur d'être le premier à faire les résidences à l'université de Tours. Et j'étais sur scène avec des comédiens et mon rôle à un moment donné, c'était d'être presque invisible. C'était d'être sur scène, habillé tout en blanc, dans un décor blanc, et de filmer les comédiens. Et finalement, ne pas être là. C'est qu'à la fin, on a vu les deux comédiens et pas le gros balourd avec sa caméra. Donc, je sais être invisible. J'espère.
Et en tout cas, Franck Ternier, avant de pouvoir voir ces deux courts-métrages, on pourra voir votre travail sur les supports du festival Désir. Il me semble que c'est vous qui faites ces supports.
Oui, tout à fait. Il fait les affiches et les teasers depuis quelques années.
Voilà. Donc rendez-vous dans les salles de cinéma et en ville aussi à Tours.
Oui, tout à fait.
À partir du 15 novembre, c'est ça ?
Alors là, je ne sais pas.
C'est ça ?
Je leur envoyais là des propositions, mais oui, je crois que c'est ça. Ouais.
Là, c'est ma boule de cristal qui m'a dit ça.
D'accord.
15. Cécile, Thomas, est-ce que vous voulez rappeler une dernière fois les dates auxquelles on pourra voir le travail de Franck Ternier ?
Donc, sur les réseaux universitaires et notamment sur la chaîne YouTube de l'université, samedi 10 octobre pour la fête de la science. Donc toute la journée, la chaîne sera aux couleurs de l'affaire de la science. Mais à 16h30, vous aurez rendez-vous avec Franck Ternier qui présentera donc le travail de la résidence et plus particulièrement le film qu'il a réalisé avec les étudiants. Donc, qui s'appelle « J'utilise mes mains pour ouvrir mes paupières ». Et ensuite, on aura rendez-vous, si tout se passe bien, le 23 janvier, à Télém, pour la réouverture de la salle et aussi une première projection du travail de Franck, du travail personnel de Franck pendant la résidence. Et ce sera aussi l'occasion de découvrir à nouveau le film des étudiants sur le grand écran de Télém.
Alors, puisque je ne sais pas si c'est l'ambassadeur de la fête de la science, c'est le directeur de l'IRBI. Voilà, je crois, Cécile Thomas, qu'il y a en cours une autre résidence en lien avec l'IRBI.
Tout à fait. Donc l'IRBI, c'est l'Institut de recherche sur la biologie de l'insecte. Donc c'est ce laboratoire qui a remporté l'appel à candidature pour accueillir un artiste dans ses locaux. Donc plus particulièrement cette année, c'est une artiste qui s'appelle Alexia De Fluff et qui manie les arts numériques à la perfection. Mais aussi la construction de cabanes, la construction de masques, la construction de plein de choses. Donc c'est une bidouilleuse de génie. Et je pense que si tout se passe bien et que la situation actuelle nous permet de travailler correctement, nous aurons un gros rendez-vous fin mai dans le bois de Grandmont pour une énorme installation interactive dont chaque élément étrange représentera une des problématiques de recherche de l'IRBI, parce qu'elle est actuellement en train de rencontrer tous les chercheurs associés à cet institut. Et voilà. Et je pense qu'il y aura un beau moment festif si on arrive à mener le projet à bout.
Eh bien, un grand merci à tous les deux d'être venus sur Radio Campus Tours pour parler de cette résidence. Voilà, il est temps de se quitter, chers auditeurs. Je rappelle que cette émission sera rediffusée aujourd'hui même à 17h et qu'elle sera évidemment en podcast pour être partagée et écoutée à volonté sur notre site et partout dans le monde, évidemment. On se quitte en écoutant Manu Dibango. Bonne journée à tous à l'écoute de Radio Campus Tours.